au réseau Cogeco, vous écoutez Entre nous avec Sylvain Ménard.
Nous sommes de retour entre nous en compagnie de Bertrand Raymond, journaliste de Vol éternel, comme je le présentais tantôt, et Patrick Lagacé, journaliste de La Presse. Patrick, tu voulais réagir sur ce que Bertrand venait de nous raconter.
Bertrand a dit quelque chose de fantastique. Il a dit, des fois le téléphone sonne et quelqu'un va dire, j'ai une histoire humaine pour toi et je pense que tu es la personne pour la raconter.
Ouais.
Moi, je reçois ça souvent par courriel. Et quand je commençais comme chroniqueur vers 2003, je rêvais qu'on fasse ça, mais parce que t'es pas connu, parce que tu commences, les gens peuvent pas se dire « Hey, je vais y confier une histoire parce que c'est lui le gars pour la raconter. » On te connaît pas. Et là, après 15 ans, ben, les gens, oui, les gens te connaissent et les gens vont te contacter en te disant « C'est toi qui peux raconter cette histoire-là. » Ça, c'est un privilège extraordinaire. Et souvent, on va aussi me refiler des histoires qui sont super bonnes, qui sont pas pour moi. Ben, dans ce temps-là, je les refile à des collègues.
Mais il y a un lien de confiance qui est nécessaire. Oui. Au cours des dernières années, et Patrick Lagacé, je ne te pointe pas en particulier, sauf que on a vu que certaines enquêtes pouvaient être faites à l'insu des journalistes, à propos des journalistes. Il y a eu une commission, la commission Chamberlain, il y a un rapport qui est sorti. Est-ce que le lien de confiance, puis je vais poser la question à Bertrand Raymond, quand tu regardes ça de l'extérieur, est-ce que le lien de confiance envers les journalistes ne sera plus jamais le même de la part des sources, de la part de ceux et celles qui pourraient donner des informations aux journalistes?
C'était tellement important qu'il y ait une loi qui protège l'information. Sans ça, il n'y a pas d'enquête possible. Et moi, je dis que ce lien-là a été mis en danger dans l'histoire de Patrick et de ses collègues qui ont été victimes d'écoute, là. C'est possible de le refaire, très certainement, avec de nouveaux paramètres qui ont été fixés puis qui vont permettre aux journalistes de travailler avec plus de liberté. Mais ça reste fragile, selon moi.
Patrick Lagacé, avant que le lien de confiance et le niveau de confidence puisse revenir à ce qu'il était avant, est-ce que ça va prendre du temps? Est-ce que ce niveau-là va retomber à ce qu'il était?
On saura jamais combien de personnes ont choisi de ne pas parler à cause...
Et choisiront de ne plus parler.
Oui, parce que moi, j'ai des témoignages. Et évidemment, on est dans l'anecdote. Hein. Tu peux pas faire une étude scientifique là-dessus, parce que ton échantillon, tu pourras jamais l'obtenir. Mais j'ai des collègues qui m'ont dit, et pas juste sur le beat policier, sur plein de beats, ça a eu un effet. Les gens ont plus peur de parler. Les gens me rappellent pas. Les gens me disent, appelle-moi plus. Ça, je me suis fait dire ça par des collègues. On le sait pas. Ce qui est bien, c'est que il y a ces lois-là qui, dans le cas du fédéral, il y a une loi qui a été votée. À Québec, il y en aura probablement une, mais il y a eu des directives administratives aussi. Tout ça va protéger le lien entre les journalistes et leurs sources, mais sincèrement, élargissons un peu la discussion. Moi, je pense que ce qui fait mal aux journalistes, c'est pas ces histoires d'espionnage.
Ouais.
C'est quand les journalistes et les médias font des sottises. C'est quand on sort des choses qui sont pas vérifiées. C'est quand on s'attarde sur des choses qui sont pas importantes aussi, qui sont vraies, mais pas importantes. Là, on fait plus mal à notre lien de confiance avec, disons, le public en général.
Mais il en demeure que, de plus en plus, j'ai cette impression-là que la confidence off the record, quand on dit ça aux journalistes, j'imagine que l'expression off the record, vous devez l'entendre plus souvent, dire « OK, je vais te le dire, là, mais je veux pas être cité. »
Non. Non, je peux pas dire ça.
Ça me rassure. Là.
Non. Les gens ont encore le désir de parler. Parce que parallèlement, dans ces histoires dans ces sagas-là, il y a eu des vocations. Il y a des gens qui se sont découverts des vocations. Si Philippe Pichet n'est plus chef de police aujourd'hui à Montréal, c'est parce que les histoires d'espionnage ont poussé des gens qui savaient comment les affaires internes fonctionnaient à la police de Montréal. Parce qu'une grande partie du problème, c'est les affaires internes. Et qui ont raconté des histoires qui ne concernaient pas les journalistes, mais qui concernaient des saloperies, qui sont des dénis de justice, des coups de cochon qui ont été faits à des policiers à l'interne. Et ça, mais ça bout à bout, t'as le ministre Martin Coiteux qui retire les enquêtes des affaires internes au service de police de Montréal qui est confié à la SQ. T'as le rapport Bouchard qui finit par faire sauter M. Pichet. Donc, il y a des vocations qui se sont découvertes là-dedans pour parler à des journalistes.
Dans mon domaine, à moi,
oui,
là,
oui, Bertrand.
Le manque de confiance, là, ouais, il s'est perdu à quelque part. Quand j'ai commencé, il y avait 5 grands quotidiens, ouais, à Montréal, il y avait 5 journalistes qui couvraient Canadiens, les 5 mêmes. On rentrait dans le vestiaire le matin, on était 5 à se partager 20 joueurs. Et de sorte qu'on était très connu. Il savait que Bertrand Raymond avait un style, que Régent Tremblay, ouais, avait un style, et c'était facile de faire des entrevues. On avait juste à s'asseoir sur la banquette, puis ça allait tout seul. Aujourd'hui, il y a 6 ou 7 nationalités différentes dans le vestiaire du Canadien. Ces gars-là, si tu veux t'asseoir avec eux autres pour avoir une bonne histoire humaine, savoir comment, mm-hmm, ça se passait chez eux dans le temps et tout ça, ils te regardent, puis ils disent « Comment ça va sortir, ça? »
Il y a une candeur qui a pris le bord.
À mon époque, il y avait 12, 14 Québécois dans le vestiaire du Canadien. Mm-hmm. On se connaissait tous, puis ils nous connaissaient parce que les joueurs nous lisaient. Ah oui. Aujourd'hui, ces joueurs-là ne nous lisent pas parce qu'ils ne parlent pas la bonne langue.
Oui, et puis le Yvon Lambert de l'époque qui venait de Drummondville, maintenant, ça peut être un Finlandais.
C'est
mais,
ça.
Mais Bertrand, le Québécois né au Québec et pas plus enclin à donner une entrevue aujourd'hui.
Pas vraiment,
j'imagine.
Parce qu'il se fait dire par le Canadien, fais attention à ce que tu vas dire, ben, fais attention, tu sais pas comment ça va sortir.
Donc, imagine comment un Piqué Subban était vu à l'interne.
Oui.
Il devait le trouver fatigué.
Bien sûr.
Parce que tu pouvais pas lui dire à lui, parle pas, il aimait ça parler. Tu pouvais pas dire, même dans le temps, t'aurais jamais pu dire à Guy Lafleur, fais attention à ce que tu vas dire. Guy Lafleur, là, devant un calepin de notes, était comme Guy Lafleur sur la patinoire. Il y avait pas de système pour lui. Son système, c'était donnez-moi la rondelle puis je vais m'occuper du reste.
Mais on est rendu à l'ère du bas du corps et du haut du corps.
Ah, parlons-en de ça.
Oui. Blessé dans la région du pied. Ben comme disait Bertrand tantôt à propos de
oui. Weber.
Chez Weber.
On l'a retourné à Montréal parce qu'on nous a finalement dit qu'il était blessé un pied, mais Claude Julien a dit qu'il est blessé autour du pied.
autour du pied.
Fait qu'il fallait pas nous dire totalement qu'est-ce qui s'était produit. Mais moi, ce que je déteste de ça, là, si le monde du hockey fonctionne aujourd'hui par blessure en haut du corps et en bas du corps, ouais, le journaliste, il est pas obligé d'embarquer là-dedans. Aujourd'hui, là, tu vois un gars qui se fait déboîter un genou, tu le vois, là, c'est un genou. Oh oui. Puis là, on va nous dire pendant 2 mois qu'il est blessé au bas du corps et les journalistes continuent d'écrire que c'est au bas du corps alors qu'ils devraient écrire qu'il est blessé à un genou. Les journalistes n'ont pas à embarquer dans ce système-là qui est fauné, qui
mais,
bon.
Mais est-ce qu'ils ont le choix? Sinon, la prochaine fois qu'il va y avoir une nouvelle, tu n'utilises pas notre glossaire, peut-être qu'on va pas nécessairement être gentil avec toi, pas trop accommodant.
Si t'es là depuis très longtemps et que t'es crédible, tu te bordes pas de ça, puis je pense pas qu'il viendrait t'adresser des reproches non plus.
Mais il y a une histoire, Bertrand, que tu racontes dans ton livre. On parle de la série finale de 1971. Moi, c'est une histoire que je trouve fascinante. Ouais. Où, à un moment donné, pendant le 5e match, Henri Richard est cloué sur le banc par Al McNeil. On connaît le caractère bouillant de la famille Richard.
Ouais.
Tu peux pas les clouer sur le banc. Et Henri Richard, le match termine, les Canadiens perdent. Et toi, tout de suite, tu pars de la passerelle puis tu descends dans le vestiaire en disant « Il va dévisser ce soir. »
Il n'y aurait pas personne qui aurait pu se mettre en travers de mon chemin. J'étais pressé d'aller dans le vestiaire. J'étais allé direct sur lui.
Il n'y a pas personne qui aurait pu le faire taire. Sauf qu'Henri Richard soit là, en pleine finale de la Coupe Stanley, il lance une bombe.
Oui, il lance une bombe. Al McNeil, c'est le pire coach pour lequel j'ai joué. Ses méthodes, ça fonctionnait dans la Ligue américaine, mais ça fonctionnera pas avec nous autres. Mais le problème, c'est qu'on était au 5e match de la finale et les joueurs dans le vestiaire, quand ils l'ont vu lancer des verres d'eau, puis parler fort, puis déblatérer contre le coach, ils se sont dit... Quelle ambiance ça va créer pour le reste de la finale, ça? Est-ce qu'il est en train de... Là, on va avoir les médias sur le dos pendant 2 ou 3 jours et tout ça. Et tu sais quoi? J'ai vu à ce moment-là à quel point Jean Béliveau était un capitaine. Parce qu'il n'y a personne dans la chambre qui aurait pu faire fermer la boîte d'Henri Richard parce qu'il aurait reçu un bon coup de poing sur la gueule. Jean Béliveau est passé à côté de lui. Il était sur le chemin des douches. Il est passé à côté de lui. Il n'a fait que lui serrer le bras. On n'a pas été capable de lui tirer une virgule après ça.
Imposant quand même, Jean-Béliveau.
Imposant, Jean-Béliveau.
Faire taire un Richard déjà.
Oui.
Mais...
c'est pas arrivé à grand monde. Mais justement, Jean-Béliveau, un modèle. Un modèle, pas juste dans le vestiaire avec son influence et sa capacité de faire taire qui que ce soit, même celui qui parlait jamais et qui pour une fois dévissait, comme je le disais. Oui. Jean Béliveau, c'était quelqu'un d'imposant. Des modèles comme ça, Patrick Lagacé, des gens d'influence. J'ai l'impression que Jean Béliveau est le dernier de sa race à avoir pu avoir 60 ans de vie publique sans aucune tâche.
C'était, hey boy, sais-tu quoi? Peut-être que je suis dans le champ, mais je pense qu'il y a aussi un phénomène de rétroviseur. On regarde dans le rétroviseur et ces anecdotes-là sortent.
Ouais.
Le temps magnifie aussi. Il y a peut-être des leaders aujourd'hui dont on va reconnaître les qualités plus tard.
Mm-hmm.
Mais
de ces temps-ci, j'ai l'impression que les placards sont ouverts et que les squelettes sortent.
Oui, mais c'est l'époque aussi. Tu sais, tantôt, je disais que les époques changent. À l'époque, c'est sûr qu'il y avait des goujats aussi.
Oui.
Des gens qui harcelaient sexuellement, des gens qui faisaient du harcèlement psychologique, mais il n'y avait même pas de terme pour ça. Donc, c'est sûr qu'on n'enquêtait pas là-dessus. Donc, aujourd'hui, c'est dans l'air du temps, c'est beaucoup moins accepté, ça passe beaucoup moins, donc ça fait l'objet de reportages, c'est sûr.
Mais dans le monde que tu couvres, es-tu déjà tombé sur un Jean Béliveau? Dire quelqu'un là...
Le modèle impeccable.
Oui, puis qui a énorme, on le respecte. C'était monsieur respect, ce Jean Béliveau. Écoute, tu pouvais rien trouver.
C'était pas parce qu'il était bon qu'il était nécessairement bonasse.
Non, il était pas bonasse.
Pas du tout.
Non, je réfléchis, là. Les gens me voient pas, là, mais je regarde vers le haut, là. De cette stature-là, ouais, de cette influence-là, non. Ça veut pas dire que des organisations, il y en a pas.
Oh oui.
Mais
de regardes, cette envergure.
Mais prends juste la politique.
Ouais.
Écoute, des personnalités à la Lévesque, même à la Bouchard, plus grand que nature, Jacques Parizeau, Pierre Trudeau, il n'y en a pas d'équivalent aujourd'hui. On est dans une forme de leadership qui est beaucoup plus copain-copain, on est tous pareils.
Juste pour illustrer la grandeur du personnage, là, au funérailles de Jean Béliveau, les policiers ont retiré leurs pantalons de clown.
Oui, au moment où c'était au pire du conflit.
Il dirigeait la circulation autour de l'église et tout ça, le cortège, et ils portaient leur uniforme. Ils l'ont pas fait pour M. Parizeau.
Ils l'ont fait pour
Jean Béliveau.
Quand même. Mais il y a quelque chose là-dedans.
Mais
et je suis persuadé que c'est pas le chef de police qui a dit hey, c'est les funérailles de Jean Béliveau. Non, les policiers
le consensus
l'ont
s'est
fait parce qu'ils respectaient Jean Béliveau.
Ouais. Le ressac a tellement été grand après qu'ils eurent porté leurs pantalons de clown autour de l'église pendant les funérailles de M. Parizeau que je pense qu'ils se sont dit OK, il y a des fois où on ne peut pas faire ça. Mm. Et une de ces fois-là, ça tombait sous le sens
Jean Béliveau.
Jean Béliveau.
Je vais vous proposer un petit quelque chose. On va changer de rôle, OK? Bertrand Raymond, journaliste sportif. Patrick Lagacé, journaliste sociopolitique. Je te qualifie ici depuis le début.
Oui,
j'insiste, je suis pas capable de faire la part des choses. Patrick Lagacé aime beaucoup le hockey.
Oui.
Je sais, il m'a déjà invité à un match une fois. Qu'est-ce que tu penses de la performance des Canadiens sur la glace et dans le bureau cette année?
Écoute, je veux juste préciser un truc. Je ne suis qu'un amateur de hockey, OK? Donc, ce que je vais dire, là,
c'est pas grave.
C'est pas parce que j'ai un micro et que j'ai une plume que c'est plus intelligent. Ouais,
mais un vieux chapeau.
Qu'est-ce que pensent les gens dans leur auto?
Mets un chapeau de journaliste qui couvre le hockey il y a une couple d'années, là.
Ben, OK, regarde. Moi, je vais prendre un pas de recul. Ce qui me fascine, OK, c'est que on n'a pas gagné de Coupe Stanley depuis 93. On n'a pas été menaçant bien, bien souvent depuis le milieu des années 90.
Ouais.
Et, Barcelone au soccer, FC Barcelone, un des clubs les plus riches, les plus primés. C'est l'équivalent du Canadien de Montréal. Les Yankees, un des clubs les plus riches, les plus primés, ben, ces clubs-là finissent par remporter des championnats, trouver une façon de gagner.
Puis nous autres, ça nous échappe.
Nous, on est un club riche, on est un club primé, prestigieux. Écoute, on a de la misère à attirer du talent. On a de la misère avec nos... la direction... Tu sais, M. Bergevin était vu comme une sorte de génie du hockey quand il est arrivé il y a 5 ans. Et là, c'est très difficile pour lui. Je comprends que c'est pas un job facile.
Non.
Mais comment se fait que le Canadien a autant de misère depuis 25 ans à attirer des joueurs, à avoir du succès? Pour moi, c'est un mystère dans un marché riche comme ça.
OK.
Pas pire pour un gars qui connaît pas, le... pas pire, hein? L'univers du Canadien.
Ben justement, je vais aller, je me tourne vers le citoyen Bertrand Raymond.
Je te vois venir, je pense que ça va être moins long.
Non, Patrick Lagacé. Non, Patrick Lagacé, c'est, au cours des derniers mois, a fait une série très importante, ben, très intéressante. C'était « Si l'école était importante au Québec ». Bertrand Raymond, qu'est-ce que tu penses du système d'éducation? Qu'est-ce que tu penses de ce que l'on livre aux enfants? T'as des enfants?
Oui.
Et... bon, t'as été à même de constater comme parent.
Je pense que tout ce qui s'est écrit là-dessus, et oui, principalement par Patrick, c'était... J'inventerai rien en disant que l'éducation est primordiale au Québec, mais on n'a pas toujours l'impression que c'est primordial pour ceux qui dirigent le Québec.
Après 55 ans de révolution tranquille, l'école est rendue où? Elle n'a pas fait le...
Moi, je pense que l'école a de grosses failles aujourd'hui. Et l'enseignement, premièrement, les enseignants ne sont pas payés à leur juste valeur. Mm-hmm. Je me rappelle, il y a peut-être 25 ans, on a dit aux enseignants, prenez une coupure de salaire, on va vous remettre ça un peu plus tard, et c'est jamais revenu. Et les enseignants, c'est un peu comme les infirmières. Ce sont des gens qui sont consacrés entièrement à leur tâche et qui ne sont pas toujours rémunérés comme ils devraient l'être.
Et dans les services essentiels, ce sont des services ultra essentiels.
Ça, c'est un service essentiel, l'éducation.
Encore plus.
C'en est un service essentiel.
C'est sûr essentiel.
Parce que on forme aujourd'hui le public de demain, ceux qui vont nous diriger demain, ceux qui vont être des grands demain. Mm-hmm. La base, elle est là. Et selon moi, il y a beaucoup de faiblesses au niveau de l'enseignement parce que justement, les enseignants ne sont peut-être pas reconnus à leur juste valeur. Et je me demande si à quelque part le gouvernement les reconnaît aussi à leur juste valeur.
Patrick Lagacé, on parle souvent de grands projets puis d'aller loin. L'été passé à Montréal, il y a eu une course d'automobile qui s'appelait le Grand Prix de Formule E. Mm-hmm. Grand Prix de Formule E qui, au bout du compte, n'aura pas survécu à sa première saison.
Formule finie.
Ou Formule fiasco. Cette histoire-là, est-ce que ça va faire mal à Montréal?
Non.
C'était fait pour mettre Montréal sur la map.
Moi je prends toujours ça qu'un grain de sel, les ambitions de mettre Montréal sur la map. Montréal, c'est pas Paris. Montréal, c'est pas Londres. Montréal, c'est pas New York. C'est une belle ville, secondaire. Faut pas se prendre pour plus qu'on est. Je pense que ce qui fait la qualité des villes de nos jours, c'est plus comme il y a 40 ans, c'est-à-dire, OK, on va avoir un gros événement. Ouais. On va avoir les Jeux olympiques. Faut pas tomber dans ce piège à con-là de façon complètement aveugle. Je vais te donner un exemple. Il y a plusieurs années, on avait eu les Jeux mondiaux aquatiques. Et pourquoi on voulait ça? Pour mettre Montréal sur la map. C'était le même genre de fiasco. On avait de la misère à vendre des billets. Et on a su après ça, je pense, avec la commission Charbonneau, que, écoute, la mairie... en tout cas, le parti du maire mettait de la pression sur les fournisseurs de la ville pour acheter des lots de billets.
Oh oui.
Fait que oui, les estrades étaient remplies, sauf que c'était des billets donnés. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vécu. Mm-hmm. Et ça a été le même genre de fiasco financier. Et je me rappelle d'être en débat à la télévision à l'époque avec un autre journaliste qui me disait « C'est important. » Si, parce que, on s'en souvient, les Jeux mondiaux aquatiques à Montréal étaient menacés. Il y avait des chances que ce soit pas présenté, ça a été sauvé dans la seconde. Et il y a un journaliste en débat qui me disait, si on perd les Jeux, notre réputation à l'international va tellement souffrir. Puis là, j'ai dit...
On avait dit la même chose pour les Hot Games, d'ailleurs.
Et là, j'ai dit au gars, j'ai dit, c'était où les Jeux l'année passée? Et là, écoute, en direct à la télé, silence radio. Je pense que c'était l'année d'avant, ou deux ans, là, je suis pas sûr, là. Ouais. Mais la présentation précédente, c'était à Barcelone. Mais personne s'en rappelait. C'est pas vrai qu'il y a un positionnement de facto parce que t'as un gros événement comme ça. La qualité de vie d'une ville, la vitalité de ses quartiers, t'as-tu des bons restaurants, t'as-tu des bons événements culturels, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus important que d'être une ville olympique.
À cet égard-là, Bertrand Raymond, le retour des Nordiques, ou le retour d'une équipe professionnelle de hockey à Québec, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut mettre de côté pour de bon?
J'aurais tendance à dire oui, surtout avec ce qui vient de se produire, là, la Ligue nationale qui a, qui a, qui depuis quelques années implorait presque Seattle de poser sa candidature. Mm-hmm. Et là, quand la ville de Seattle a accepté de financer une nouvelle, les réparations de l'aréna ou de bâtir une nouvelle aréna, là, on s'est dit, ah, on vous invite à poser votre candidature. Alors, la prochaine équipe, ce sera Seattle. Après ça, la prochaine équipe, ça va être Houston. Mais je vois pas... la Ligue nationale et surtout Gary Bettman voit Québec comme un très petit marché. Ouais. Et quand Québec est parti de là pour aller à Denver, ça devait se donner des high-fives dans les bureaux de la Ligue à New York. On venait de sortir d'un petit marché qui en arrache et qui en aurait arraché. Et aujourd'hui, là, le prix d'entrée pour Seattle, ça va être 660 millions. Mais quand dans quelques années, ça va être le tour des Nordiques, ça va être à 900 millions. Je pense pas, moi, je pense que Québécois, ça fait l'affaire de Québécois de dire, on essaye toujours d'avoir une équipe, on veut encore l'avoir, cette équipe-là à Québec, mais ça fait leur affaire que ça marche pas parce qu'ils vont peut-être sauver un million point cinq au début de l'année.
On a l'impression.
Un milliard.
Un milliard.
Ouais. On a l'impression, effectivement, que leurs appels se retrouvent dans le bac de la poste restante, puis c'est pas trop grave.
Puis, Sylvain, faut pas oublier un truc, Ottawa, qui est un marché similaire à celui de Québec. Mm-hmm. Ottawa a beaucoup de difficultés. Ottawa a recouvert certaines sections dans son aréna de grands draps, appelons ça comme ça, parce qu'on n'arrive pas à vendre.
Pour pas montrer le banc vide.
Le propriétaire Melnick a fait une sortie le jour de la classique canadien et sénateur au Parc Lansdowne pour dire exactement ça. Écoutez, si les partisans embarquent pas, ça se peut que j'aille me faire voir ailleurs. Mais à New York, là... C'est sûr qu'on fait le calcul que Québec, c'est un peu comme Ottawa.
Mais quand ça va se produire, si jamais ça se produit, là, mm-hmm. dans ce temps-là, le plafond salarial, il va peut-être être à 90 ou à 100 millions. Québec ne peut pas se permettre ça. Québec n'a pas les revenus, n'a pas les sièges sociaux mm-hmm. pour financer une équipe de hockey. Au moment où on en est rendu maintenant, alors que c'est hors de prix, là, je pense pas que Québec soit capable de faire vivre une équipe.
Et quand, par malheur, ça va se produire, moi, ce que je veux, c'est en parler avec vous deux. Un gros merci, Bertrand Raymond. Un gros merci, Patrick Lagacé. On vous souhaite une très bonne année 2018.
Et merci, à toi aussi. Merci.
Merci. Merci beaucoup. On va écouter de la musique, tiens. On se laissera pas comme ça. Une chanson de gars. Tirée de l'album Cabanon de Jean-Marc Couture. Dans mon cabanon. Salut tout le monde.
Si bien les pieds, peut-être parce que je n'avais pas moi-même choisi mes souliers qui allaient me mener loin d'où je voulais aller. J'ignore la raison pour laquelle je les ai laissés me guider. Comme j'étais volontaire, j'ai même pas pris le temps d'y penser. Why not? Ok, je suis bien prêt à y aller. Soit parce qu'on s'en prête. Ok, les pieds à doigts levés. Vous ne me verrez plus jamais errer ou dériver. Je suis désormais le capitaine en charge de mon propre voilier.